Oui, j'ai une très bonne santé.
Là, tu fais beaucoup.
C'est pas de la santé, c'est une vitalité. Parce que tout le monde a une bonne santé, en fait. J'ai un système nerveux assez spécial qui fait que je récupère très vite, mais qui fait aussi que j'ai des périodes un peu dépressives tout de même après. Enfin, hein, à force de tirer dessus, j'ai une bonne carcasse. Hein. Enfin, je bois beaucoup moins qu'avant. Je fume beaucoup.
En fait.
Et je travaille beaucoup.
Tout ça, c'est pas très bon pour la santé.
Mais vivre, c'est très mauvais pour la santé. Il n'y a rien qui use plus un homme que vivre. Alors, autant vivre en ayant des sensations que vivre sans avoir de sensations.
Tu n'as pas peur du cancer, des trucs comme ça?
C'est peur de la mort, ça, alors.
Ouais.
J'ai pas bien peur de la mort, non. D'abord parce que la mort, c'est la seule certitude que j'ai. Et en plus, j'ai pas très peur de la mort. Il est évident que j'ai presque pas peur de la mort. Il est évident que je n'ai pas du tout envie de souffrir pendant des années. J'aime pas la souffrance, et je serais fou d'aimer la souffrance. Je serais maso, enfin, ce serait un truc dément. Mais j'ai pas peur du fait de ne plus rien être. Voilà, un soir, je vais m'endormir, mettons, et demain, je ne me réveillerai pas. Ça me paraît dans l'ordre des choses. En plus, comme je crois qu'il n'y a absolument rien derrière, ça me dérange pas, cette notion de mort. Non. Pas beaucoup.
Tu vas continuer à fumer.
Oui, parce que monter en voiture, c'est dangereux pour la santé aussi. Vivre, c'est très dangereux pour la santé. Faire l'amour, c'est très mauvais pour la santé. Courir, c'est très mauvais pour la santé. Avoir des rêves, c'est très mauvais pour la santé morale. Tout est extrêmement mauvais pour la santé, puisqu'il y a un phénomène d'usure. Cela dit, je crois qu'il faut quand même éviter de vivre comme un infirme. Hein. Et de se dire, attention, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Ce qui compte dans une vie, je crois que c'est l'intensité d'une vie, ce n'est pas la durée d'une vie. Ce qui compte dans un roast beef, c'est sa qualité, c'est pas son poids. On a l'air d'un imbécile avec tout seul devant un roast beef de 4 kilos. Hein. C'est-à-dire que deux belles tranches, c'est formidable. Enfin, vivre, ça ne rime à rien. Hein. Enfin, il faut quand même bien le dire, ça ne rime pas à grand-chose. Et ça ne sert à rien, il n'y a personne. C'est une espèce d'accident biologique intéressant, puisqu'on vit, mais ça s'arrête là. Alors je crois que ça doit être... qu'on doit vivre, le temps de vie qu'on a doit être extrêmement intense. Sans quoi c'est la grisaille, c'est l'ennui. Et je crois que le risque fait partie des... calculé, pas fou du tout. Hein. J'ai horreur de faire du 180 à un carrefour pour voir si quelqu'un va arriver ou pas. La roulette russe, ça m'amuse pas du tout. J'aime beaucoup chiader un risque. Mais je le prends tout de même, mais en calculant très sérieusement. Parfois, je me casse la gueule, parfois ça marche quand même. Eh bien, ça fait partie des sensations de la vie.
L'avion, c'est un peu ça.
L'avion, c'est ça, mais c'est extrêmement chiadé. Il faut 10 fois plus, avoir 10 fois plus de choses ou 20 fois plus de choses pour piloter à peu près convenablement un avion, alors qu'une voiture, tout le monde peut monter dedans. Et je trouve que les gens qui roulent normalement en voiture sont des fous. Tout le monde part le matin, personne ne sait s'il a des freins. Il n'y a même pas une checklist essentielle, rudimentaire, qui fait que il y a tous les matins des millions de véhicules qui se mettent en route et personne ne sait si ça va freiner au premier feu rouge. Alors qu'un avion, moi dans mon avion, enfin, j'ai un Beach 55, j'ai 10 bonnes minutes de checklist, enfin, en tout. Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Or, ce rêve était à ce moment-là, même pas de chanter, pas du tout. C'était de projeter mon rêve à l'extérieur, qui est un phénomène de compensation. En termes cliniques, ça a des mots beaucoup plus effroyables que ça. Et, enfin, prenons l'expression de Duhamel et d'autres gens qui ont dit bien avant ça, Ibsen en parlait aussi. On raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent à ce moment-là, dans l'instant. Il a le talent à ce moment-là pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Pratiquement pas. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On ne peut pas... une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure. Il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais en tout cas que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Ça, c'est un autre problème. À 40 ans, on le sait. Jusqu'à 40 ans, je ne le savais pas. Et maintenant, je sais que c'est comme ça. Et peut-être qu'à 60 ans, je vais découvrir autre chose. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que j'aurai envie de manger demain, ni ce que j'aurai envie de boire demain. Ni ce que j'aurai envie de faire demain, je ne le sais pas, ça. Non, mais quand je dis manger et boire, c'est une image. Je ne sais pas quel sera mon appétit principal, enfin. Je ne le sais pas, ça. Et j'ai pas envie de le savoir. C'est abominable aussi. J'ai 42 ans. Ce serait abominable que je sache très précisément de quoi, non pas ce que je ferai, mais de quoi j'aurais envie à 45 ans. Ce serait déjà une forme d'enfer. Heureusement que l'avenir n'est à personne. Et qu'il n'est pas à Dieu. J'ai jamais écrit des chansons à la mode. Je n'ai jamais, par exemple, été dans un coup rythmique. Moi, je n'ai jamais été dans le coup en ce sens que rythmiquement, tout ce que j'ai fait est d'avant 14-18. Voilà, en ce sens-là. Si sur le plan musical, j'étais d'avant 14-18, sur le plan moral, si on veut, sur le plan du moraliste, j'étais d'avant la guerre de 39-40, enfin. Cela dit, je considère que Brassens est d'avant la guerre de 1870. Et j'adore, j'ai une passion pour Brassens, qui est un homme qui a écrit des choses fantastiques, mais ça n'est pas dans le coup. Ce n'est pas dans le coup du siècle. Le phrasé de Brassens, les préoccupations de Brassens, et le rythme de Brassens sont des rythmes de la fin du siècle dernier. Par contre, ça ne correspond pas, c'est ce qui fait la force de Brassens, c'est un dépaysement, chez moi aussi relativement. Mais ça n'est pas dans le coup. On n'habite pas la 5e avenue, c'est évident que Brassens, ce n'est pas la 5e avenue à New York, et moi non plus, voilà. Alors qu'il y en a qui sont la 5e avenue, un type comme Nougaro, il pourrait habiter dans la 5e avenue à New York, voilà ce que je veux dire. Quand je parle du coup, j'ai jamais été dans le coup de l'époque.
C'est ça.
Cela dit, je nie cette époque-ci. Donc voilà, c'est encore autre chose. Je ne déteste pas New York, je déteste y être. Ce qui est très différent. Attention, finalement, j'aime que la campagne, moi. J'aime que... J'ai besoin d'horizon. J'aime pas vivre à Paris non plus. Et quand on me dit, New York, vous êtes heureux. Non, je suis pas très heureux. Moi, j'aime pas d'être au 32e étage. J'aime pas beaucoup. La pollution.
Ça me dérange, la pollution.
Qu'est-ce oui, que... ça me dérange. Enfin, il y a une pollution qui paraît beaucoup plus importante, c'est qu'on est à la fin du 20e siècle et que les hommes sont toujours à vendre. Enfin, une pollution qui me paraît plus importante que de savoir s'il faut mettre du détergent dans l'Escaut ou dans la Meuse. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je suis con. Mais je trouve qu'il y a une pollution morale qui me paraît beaucoup plus importante que la pollution.
Brel chanté par Sinatra, au départ, c'était même assez marrant. Enfin, comme ça.
Ben, elle arrivait aussi.
Qu'est-ce que tu penses de
J'ai vu une fois Sinatra, mais je sais pas, moi, c'est pas fait pour penser, les chansons.
Non, mais enfin, je pense à l'interprétation de Sinatra.
Mais il chante admirablement bien, enfin, dans le style crooner, on peut pas faire mieux que ça. Ça, c'est sûr. Tu l'as attendu. Je suis plutôt content, parce qu'on a tous un bon fond de vanité, hein, il faut pas se leurrer. Et or Sinatra, moi, c'est une idole de, je dirais pas de l'enfance, c'est méchant pour lui, mais enfin, depuis un certain nombre d'années quand même, c'est pas un débutant. Et alors tout d'un coup, on a une chanson soit chantée par Sinatra, ça fait plaisir. Enfin, on se lève pas la nuit, hein, pour l'écouter, il faut être juste. Mais ça fait plaisir, enfin, une minute, quoi. Ou le temps du disque, enfin, le temps du... Moi, je crois que si on est très amoureux d'une dame, qu'elle soit belle ou pas belle, ou laide ou pas laide, on s'en fout de ça. Ou jeune ou vieille. On est très amoureux d'une dame, et puis il faut tout lui donner. Et puis à un moment donné, on n'est plus amoureux. Savoir pourquoi on n'est plus amoureux d'une dame, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On peut passer sa vie à analyser ça, ça vaut pas le coup. Il y a des gens qui ont essayé, ils ne sont jamais arrivés qu'à des solutions qui me paraissent caduques. Et puis d'un coup, on n'est plus amoureux d'une dame, et où ça devient dramatique, c'est qu'on n'a plus rien à lui dire à cette dame. Et qu'on n'arrive plus à faire convenablement l'amour. Alors si c'est pour pas bien faire l'amour, et pour dire des banalités en disant, tiens, le fond de l'air est frais, il faut se taire. Il faut se taire, ne pas nécessairement quitter la dame. Mais en tout cas, il faut jamais faire semblant de faire l'amour. C'est abominable, et pour la dame et pour soi, c'est humiliant. Et il faut jamais s'offrir le luxe de dire des banalités à... Et alors là, il faut se taire. Et dans la chanson, ou dans n'importe quoi, je crois que c'est la même chose. Il arrive un moment où on se dit, ce que j'ai à dire n'est pas essentiel. Enfin, j'ai pas quelque chose... je ne dis pas que j'ai jamais dit quelque chose d'essentiel, c'est pas ça. Mais ça n'est pas un besoin précis, net. Et il faut se taire. Je crois que c'est un problème d'honnêteté morale, c'est tout. Il y a des moments où il vaut mieux être honnête vis-à-vis des gens que de faire plaisir aux gens, je crois. Je suis même sûr de ça. L'amitié, c'est un exercice de très grande mauvaise foi, mais qui est merveilleux. On décrète un jour, je l'aime, et puis on l'aime. Puis le gars peut tout faire, ou la fille peut tout faire. Ça, c'est formidable.
Que respectes-tu le plus de... Comme sentiment, bien sûr.
Comme sentiment?
Oui.
On ne parle pas d'amour, hein. Mais c'est la fidélité. C'est très certainement la fidélité. Le phénomène amoureux n'a rien à voir avec ça. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. C'est marrant parce que quand je pense au mot tendresse, je pense aux hommes, moi. Avec les femmes, on a de la passion, de la patience, et puis des remords. Je crois. Il faut être honnête. Mais la tendresse est un mot qui s'applique infiniment plus aux hommes. Parce que la tendresse est un jeu, comment dirais-je, égalitaire. C'est un flux ou un reflux, mais entre deux pôles qui sont à égalité. Avec la femme, on peut tendrement aimer une femme, bien sûr. Mais la tendresse est une chose qui s'adresse, dans mon esprit, je ne dis pas que j'ai raison, dans mon esprit, c'est une chose qui s'adresse aux hommes. Un homme qui n'est pas tendre, c'est pas un homme. Un homme dur, ça n'existe pas. Un homme qui ne pleure pas, ça n'existe pas. Ça me terrorise alors. Ça n'existe pas. Faut-il être égoïste pour ne jamais pleurer, pour que ce soit de honte ou de joie? J'aime bien ce phénomène de tendresse. Je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme, du mâle. Je crois vraiment ça. Et je crois que par essence, la femme l'arrête. Alors l'homme s'arrête près d'une femme, et puis la femme a envie qu'on lui ponde un œuf, toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un œuf, et je comprends ça. Et puis on pond l'œuf. Alors l'homme, il est bien bon, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante, je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de ce teuf, et alors il faut de la paille en dessous. Alors on met de la paille, l'homme il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'œuf. Et puis un jour il pleut, alors là, il va chercher de la paille et il fait un toit. Et puis après il y a des courants d'air, alors il bâtit des murs, et puis après il reste là. Et l'homme est un nomade, et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp d'une, des espèces d'aventures, quelles qu'ils soient, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. C'est pas méchant, c'est un ennemi. C'est un merveilleux ennemi. Si tous mes ennemis étaient nus, qu'est-ce que je les aimerais?
Que préfères-tu, le sourire d'une femme ou celui d'un enfant?
C'est la même chose. C'est tous les deux pour avoir quelque chose. Ça, c'est parfaitement méchant, Jean. Je crois pas un mot de ce que je viens de dire. Mais j'aime mieux le sourire d'une femme. Oui, oui, sûrement. C'est-à-dire pour ça qu'il y a des enfants. C'est parce que les hommes préfèrent le sourire des femmes. Je ne sais pas bien parler des femmes. J'ai jamais très bien compris. J'ai parfaitement conscience d'être passé à côté de quelque chose, là. J'en suis pas fier du tout, mais j'ai conscience d'être passé à côté de quelque chose toute ma vie. Ou par paresse, ce qui est fort possible. Ou par pudeur, ce qui est possible aussi. Et je ne suis fier de... Je ne suis satisfait d'aucune de ces deux solutions. Mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est un travail, hein, les femmes. C'est un travail. Ou alors on est le gars qui plonge sur la femelle, enfin... ça ne m'amuse pas du tout. Je crois que j'aime trop l'amour que pour beaucoup aimer les femmes, en fait. C'est à quoi un mec va dire que je suis pédé, ce qui est faux. Je ne suis pas pédé du tout. Mais je crois que j'aime trop l'amour. Les femmes sont toujours en dessous de l'amour. De l'amour dont on rêve. Et comme je suis assez romantique, enfin, ou sentimental, je ne m'en cache pas du tout, la femme est un peu à côté de l'amour. À côté du rêve que j'ai. Mais j'ai pas bien compris les femmes. J'ai pas bien compris. Puis c'est trop tard, quoi. Je veux donc dire que quand je parle de l'amitié, je crois que je sais bien ce que c'est que l'amitié. Quand je parle de la tendresse, je crois que je sais bien ce que c'est que la tendresse. Quand je parle d'une chanson, je crois que je sais à peu près ce que c'est qu'une chanson. Mais les femmes, tout ce que je peux dire au sujet des femmes, ou sur les femmes, c'est très sujet à caution. Faut se méfier de ce que je dis. Mais je crois que j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Faut être juste. Un gars qui me dirait, vous savez, c'est très vulgaire, braguette épicée. S'il veut, s'il est ici par exemple, et qu'il veut aller faire pipi, et qu'il n'ouvre pas sa braguette et qu'il ne va pas faire pipi, il va finir par avoir des bricoles, n'est-ce pas? Ou bien il fera dans son pantalon, ce qui est un signe de très mauvaise éducation. Il faut quand même voir les choses. Pourquoi ne pas être précis? Pourquoi se cacher derrière le doigt? Je ne comprends pas ça. En plus, pisser, c'est un mot français. Et puis c'est joli, ça siffle, c'est formidable. Et puis une braguette, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est ce qu'il y a à l'avant de la culotte et ça aide un certain nombre de manœuvres. Mais qu'est-ce que je peux quand même pas dire? Je veux dire quoi, les lunettes? Non, on peut pas changer le mot. Ça n'est pas vulgaire du tout. Pas du tout. Ce qui est vulgaire, c'est deux jeunes gens qui s'aiment et le père de la jeune fille va trouver le père du jeune homme en disant « Combien votre fils gagne par mois ?» Je trouve ça d'une vulgarité abominable, ça. Alors qu'une braguette épicée, ça ne veut rien dire. Oh, qu'est-ce qu'il faut dire? Faire pipi? Je trouve ça bien plus ridicule. Et ouvrir sa culotte?
Non, c'est le fait. C'est
poser culotte, comme on disait dans le jargon.
Thank you.
J'aime les Belges, moi. D'abord, je suis belge. Je suis belge et je passe finalement, depuis 20 ans que j'écris des choses qui ne sont absolument pas congestionnantes d'intérêt, mais qui existent, depuis 20 ans, je parle, en tout cas, si pas de la Belgique, je parle des Belges, ou de la Flandre, ou du machin. J'en parle. Et j'en parle avec l'accent, pourquoi pas. Et j'en parle de manière précise, comme le plat pays, ou comme d'autres histoires, enfin, peu importe. Il y a des gens qui refusent un peu cette condition de Belgique. Et c'est un peu désolant. Moi, ça me plaît pas beaucoup. Parce que quand on est de quelque part, si on veut que ça change, on fait une révolution. Mais on dit pas toute sa vie, oh, c'est pas drôle. Vous comprenez ça? Oh, mais nous, vous comprenez, les pauvres Belges, vous comprenez, qu'est-ce qu'on est? On est rien du tout, tout le monde se fout de notre gueule. C'est pas vrai. Le monde ne sait pas où est la Belgique. En général, il faut être humble. C'est comme quand on se rase le matin dans un on redevient humble, on découvre sa gueule derrière le savon, pof, ça calme. Mais le problème belge, finalement, est un problème absolument microscopique. Vous comprenez? Et quand vous arrivez, vous savez, au Pérou, ou à San Salvador, et que vous dites, ah, vous êtes belge, le gars, il sait vaguement s'il faut qu'il ait fait des études calées. Parce que dites-moi un peu toutes les républiques d'Amérique centrale, vous allez voir. Eh ben, il sait vaguement que c'est en Europe. Mais il sait rien. Vous comprenez? Quand vous dites, ah, Louvain, on a des problèmes, le mec s'en fout complètement. Complètement. Alors moi, je débarque et je parle, Amsterdam, maintenant, ils croient tous que c'est en Belgique, puisque, voilà. Mais alors, je crois qu'il faut assumer sa condition, ou la modifier, mais la modifier vraiment, voilà. C'est pour ça qu'il y a une série de gars, à mon avis, qui jouent à ne pas être belges. Il y a une dame, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, « Mais enfin, monsieur Brel, plus personne ne parle avec la chambre chez moi, pourquoi vous vous moquez comme ça tout le temps de nous ?» Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et moi, ça me paraît charmant, cet accent-là. Seulement, quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas. Mais je trouve, moi, que c'est un truc charmant.
L'accent canadien aussi.
Mais l'accent canadien, moi, c'est français. On va se pacter la fraise, doué. Mais c'est charmant, c'est charmant. Mais, enfin, je comprends pas bien. À un moment donné, j'avais écrit les bonbons avec l'accent bruxellois. Et il y a des gens ici qui ont cru que je me moquais de l'accent bruxellois. Pas du tout. J'ai employé l'accent bruxellois. Parce qu'il existe, bon sang. Ça existe. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une vue de l'esprit. Et je trouve qu'il y a une saveur, il y a le terroir. Pourquoi vouloir obligatoirement jouer à avoir ou l'accent? Moi, j'ai l'accent pointu, comme on dit maintenant. Ça fait 20 ans que je vis en France. C'est une chose logique. Bon. Mais pourquoi faut-il avoir ou l'accent de Londres à Bruxelles ou l'accent de je sais pas quoi? Non, on parle comme on parle. Enfin, et puis, moi, j'adore ça. Je ne parle pas comme ça. Mais j'aime ça. Quand je dis que je suis flamand de pensée, je ne peux évidemment pas prouver que c'est vrai. Cela dit, un type qui passe pendant 20 ans beaucoup de temps à parler du plat pays ou des flamands, de machin, je parlais quand même pas des Alpes, hein, ni de l'Adriatique, c'est quand même de ce pays-ci dont je parlais. Que je sois francophone, c'est indiscutable. Et je ne vois pas pourquoi un Finlandais ne peut pas écrire et parler de la Finlande en allemand. Et je suis francophone parce qu'il me semble, moi, peut-être naïvement, que comme nous sommes dans des démocraties non populaires, on a le droit de choisir le mode d'expression qu'on veut. Et que j'ai le droit, moi, flamand de race, de raconter tout ça, ce que j'ai envie, en français. Je crois qu'on a le droit d'être anglais et de ne pas être roux, et de parler le portugais et d'écrire des poèmes en portugais. Je ne vois pas là un crime de lèse-majesté. Si je demande demain à un flamand de me prouver qu'il est flamand, il ne peut pas me le prouver. À quoi on reconnaît un flamand? Un homme qui parle le flamand? Ça n'est pas une preuve. Un mongol peut admirablement parler le flamand. Ça ne veut rien dire tout ça. C'est du racisme.
C'est rare.
C'est pas courant et c'est souhaitable. Parce que si tous les mongols parlaient le flamand, la Flandre serait petite. Hein. Tout le monde a mal aux dents de la même façon. Tout le monde regarde sa mère de la même façon. Tout le monde regarde une femme de la même façon. Tout le monde aime ou n'aime pas les épinards de la même façon. Et tout le restant, c'est... Je crois... J'ai la faiblesse de croire que ce sont des problèmes de base politique et assez sordides. Je trouve que la Belgique vaut mieux qu'une querelle linguistique. Vraiment. Thank you. Quand on invente quelque chose, on est une aspirine. Je continue à croire ça, je croirai ça encore très longtemps, je crois. On est une aspirine, et si tu peux être une aspirine pour les autres, et pendant le temps d'une chanson, le temps d'un film, les gens ne pensent pas à leur truc qui les ronge à longueur de vie, mais ils pensent à autre chose, c'est donc une aspirine. Eh bien, c'est bien. Et si après on dit, oh, il le fait pour ci, il le fait pour ça, il est pas honnête, il triche, machin. Finalement, il n'y a qu'un type pour qui c'est important que je sois honnête ou pas. C'est moi. Et moi, je sais quoi. Et je ne suis pas toujours content de moi. Mais pour moi, c'est vachement important. De là à savoir ce que Sprunz ou Duglan pense de ça, je suis toujours un peu désolé quand ils m'attaquent bien en tête en disant « Vous êtes un rigolo. » Mais je ne peux pas passer mon temps à le leur prouver. Mais je serais bien incapable de leur prouver. Mais en fait, ça ne compte que pour moi, que pour moi vis-à-vis de moi. Je me couche moi avec moi le soir. Eux ne se couchent pas avec moi. Et l'honnêteté est une chose qui... Mon honnêteté est une chose qui me regarde au premier chef. Tu comprends? Écrire des chansons, les chanter, être comédien ou faire de la mise en scène au cinéma, tout ça sont des travaux d'aspirine, mais qui alors ont une forme, sur le plan extérieur, comme projection extérieure, il y a une forme d'exhibitionnisme. Eh bien, il faut l'assumer. Il faut dire « je veux bien ». Bon, j'ai choisi d'être exhibitionniste. Avec des intentions, si tu veux, morales ou philosophiques, peu importe. Mais tu dois assumer cette fonction-là à l'état primaire, si tu veux. Tu es simplement, il arrive un moment où toutes tes intentions sont gommées par ton activité exhibitionniste. Ils aiment pas? Ben, c'est bien fait pour ma gueule. J'avais qu'à pas le faire. C'est très moral. Non, c'est très moral. Et puis les gens ont parfaitement le droit de pas aimer. Bon sang. Tu crois que je les aime tous? Moi, j'essaye de les aimer tous, mais j'y arrive pas. Je leur dis pas dans des journaux. Je ne leur dis pas... Quand je vois un type qui a une tête qui me revient pas dans un bar, je vais plonger sur lui en disant « Vous, vous avez une gueule insupportable. » Bon, alors qu'en général, ils pensent sur moi en disant « Vous, je vous déteste. » Mais je comprends très bien ça. Mais dès que tu es ce qu'on appelle en position de pointe, si tu veux... Il faut très bien admettre qu'un certain nombre d'individus peuvent pas te souffrir, peuvent pas t'encaisser. C'est très moral, oui. c'est très normal. Alors, je ne dis pas que ce soit plaisant, mais c'est pas la fin du monde, quoi. C'est comme ça. Ce qui est important, qu'on soit roi ou qu'on dépave les rues, c'est d'être un individu bien. C'est pas la fonction, c'est la manière dont on accomplit, dont on fonctionne dans sa fonction. Ça, c'est important. On peut être un admirable épicier, enfin. Mais oui, oui. Un gars chez qui on va acheter une boîte de petits pois, on sort chaque fois de bonne humeur. Cet homme mérite un monument public, bien plus qu'un médecin qui s'en fout. Moi, les gars que j'ai le plus envie de voir, c'est... Il y a un gars qui habite Tbilissi, en Géorgie, qui est docteur. C'est pas des gens connus, en fait, les gens que j'ai très envie de voir très souvent. C'est des gens que j'aime. Finalement, l'envie de voir quelqu'un, ça fonctionne à l'affection et pas à la notoriété. La vraie liberté, c'est avoir le droit de se tromper. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire une erreur. Tu as le droit de merder, enfin, tu comprends? Voilà, là tu es libre. La réussite n'est jamais une preuve de liberté, alors que l'échec est toujours une preuve de liberté. On le savait, ou alors on est inconscient, ce qui est un problème. On savait, et on se trompe. On a été libre. Et on a usé de sa liberté. Et les hommes usent très peu de liberté, je trouve. Il faut se tromper, il faut faire ses erreurs, il faut se casser la gueule, il faut avoir mal, il faut pleurer, il faut être en dessous de son oreiller et se tromper. Et parfois on dit des bêtises, et Dieu sait que je dis comme j'en dis des bêtises. On dit des bêtises, ça n'a pas d'importance. Le fait d'exister, le fait de bouger, me paraît quand même plus intéressant, dans la mesure où ça ne fait mal à personne, me paraît plus intéressant que le fait d'être prudent. Il est urgent de ne pas être prudent. Il faut être imprudent. Et vous vous cassez la gueule, et bien vous vous cassez la gueule. Et puis quoi? On n'en meurt pas de se casser la gueule. On ne meurt pas d'humiliation. Ça n'existe pas. On meurt d'un coup de couteau dans le dos ou d'un accident de voiture. Mais on ne meurt pas de se tromper la gueule. Personne n'est ridicule. Il y a des vivants et des morts. Ça, c'est vrai. Il y a des vivants et des morts. Et tout le restant, si on est bien, si on est heureux. Il n'y a rien de plus horrible qu'un homme malheureux. Parce qu'un homme malheureux fait le malheur. Il entre et il engendre le malheur. On dirait un Mardi Gras qui a mal tourné. Alors qu'un homme heureux, même fou, engendre un petit peu, quelque part, le bonheur. Ou la haine. Mais la haine, ça stimule la santé des imbéciles. Ce qu'il y a de plus dur pour un homme qui habiterait Villevorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Villevorde. C'est ça qui est difficile. C'est que ça qui est difficile. Parce qu'après Hong Kong, tout s'arrange. Il suffit d'avoir une santé et une folie. Et puis, Hong Kong est à la portée de tout le monde. Mais quitter Villevorde, ça c'est dur. J'aime pas les gens prudents. Entendons-nous encore bien, n'est-ce pas? Quand je dis prudent, c'est prudent sur un plan moral. Je n'aime pas les gens qui ont cette espèce de prudence, qui machin. On voit machin parce que ça va bien, on voit truc parce que... J'ai horreur de ça. J'aime bien les gens qui vivent avec leur tête et avec leur corps. J'aime pas beaucoup les intellectuels. Ce qu'on appelle l'intellectuel. Je suis un intellectuel, mais j'aime pas beaucoup les intellectuels. J'ai un faux intellectuel, d'ailleurs. Mais j'aime bien les gens qui vivent avec une espèce de... Le corps suit, le corps est d'accord avec la tête. J'aime pas les espèces de divorces, il y a des divorcés solitaires. Les gens, leur corps est jamais d'accord avec ce qu'ils pensent. J'aime pas ça. Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. T'es bien d'accord? J'en connais, moi j'en ai rencontré 1 million dans ma vie. Des types qui disent, alors tu sais, encore 2 ans, je vends des bretelles encore 2 ans. Hein, tu vois, mais alors en 73, j'écris un livre. Et puis, si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi je continue à vendre mes cornichons, tu vois, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi je crois que bretelle ou cornichon, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger, moi. Et je plonge. Qu'est-ce que ce sera? Mystère et boule de gomme. Et tu sais pourquoi les gens ne font pas de chansons, et tu sais pourquoi les gens ne chantent pas, et tu sais pourquoi les gens n'écrivent pas de livres? Parce qu'ils font autre chose à la place. C'est que ça, hein. C'est le coup d'aller à Hong Kong. Je reviens là-dessus. La difficulté d'aller, pour aller de Villevorde à Hong Kong, c'est pas d'aller de Bruxelles à Hong Kong, c'est d'aller de Villevorde à Bruxelles. C'est ça la difficulté. Et puis il faut s'obliger, quoi, il faut se botter le cul. Hein. Ça arrive pas comme un œuf de Pâques. Hein. C'est du travail, c'est de la discipline. La bêtise. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. La bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Quand on a mal aux dents, c'est parce qu'on se brosse pas les dents quand on est petit. Hein. Toute humiliation que tu reçois dans la gueule, c'est quand même parce que tu as fait un certain nombre de bêtises avant. Toujours. Une humiliation, c'est quoi? C'est un moment où ça a flanché, où tu as reçu une tarte dans la gueule, enfin. Ou de la vie, ou de quelqu'un. C'est que tu as fait une bêtise avant, c'est que tu as fait quelque chose de pas bien. Ou bien, dans ce que tu as fait bien, tu ne l'as pas fait assez bien. C'est très sain tout ça.
D'où le tiens-tu en France morale?
De vivre. De vivre.
Quelle est ta réaction vis-à-vis des malades?
Oh, ça dépend quel malade, et ça dépend si on le sait ou si on ne le sait pas, cet homme, enfin cet homme ou cette femme. C'est abominable, enfin. C'est abominable. Et toute l'énergie devrait aller vers ça, quoi.
La vie dans le moral, là.
Ah oui.
La santé dans le moral. Donc,
la vie.
J'y reviens toujours à la santé.
La vie. Tu sais, un jour, tu es obligé de choisir. Tourne le problème comme tu veux. Mais un jour, tu es obligé de choisir. Ou tu te préfères, ou tu ne te préfères pas. Si tu te préfères, à mon avis, tu deviens moribond immédiatement. Parce que tu te préoccupes de toi avec une énergie fantastique. Parce qu'on a une énergie fantastique, tous. Ou bien tu te dis, bon, ben je vis, je suis là, sur une boule qui tourne, qui a 42 000 km de diamètre. C'est intéressant, mais sans plus. Il faut que ce phénomène biologique ait jusqu'à une fin inévitable. Nous le savons. Alors autant que ça se passe bien, autant que ce soit, comment dirais-je, transparent, autant que ce soit clair, que ce soit gai, et puis là, t'as le moral. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Cela dit, il y a des soirs où tu doutes de tout et des matins où tu doutes de tout. Il y a des matins où je rentre dans ma baignoire et j'aimerais mieux rester en dessous de l'eau. Ça m'arrive, c'est certain. Mais en gros, je trouve que dans la mesure où tu te dis, ben, ce qui est important, c'est ce qui se passe autour, ce qui est une solution parfaitement égoïste aussi, d'ailleurs, faut pas se tromper. Mais oui, mais tu as un relatif moral, tu as la relativité des choses. Enfin, tu te dis, bon, je fais un tour de champ à l'Olympia. Bon, c'est pas... On n'en meurt pas, hein. On n'en meurt pas. Cela dit, tu as tellement peur que tu mets toute la gomme, quand même. Tu te crèves, la santé, la pauvre tête qu'on a, tout. Ou tu fais un film, c'est la même chose. Mais enfin, on n'en meurt pas. Je trouve tout le temps dans la vie, tu sais. Mais bien sûr, je trouve. Mais tu vois, j'ai chanté 17 ou 18 ans, j'étais vomir avant chaque tour de chant, de peur. Quand j'avais 3 tours de chant par jour, j'allais vomir 3 fois par jour, de peur. Et en avion, parfois, j'ai très peur. Et je fais du voilier, parfois, j'ai très peur. Et quand je joue la comédie pour un film, j'ai peur. Et là, je vais faire un film en plus, je l'ai écrit. La mise en scène est jouée. Non, j'ai très peur. Mais j'avoue que j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'un type n'a pas peur. C'est un fou. Il faut l'enfermer.
Mais ce besoin que tu as...
Enfin... C'est pas un besoin. Je trouve anormal de refuser la peur tout le temps. Je trouve anormal cette espèce de sécurité qu'ont bien des gens. Je ne leur en veux pas du tout. Bon sang, que je les aime bien, que je les respecte. Mais je ne pourrais pas, moi, vivre... Peut-être que j'ai trop de santé, t'en parlais... Peut-être que... Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion... Mais calculer, pas bêtement, hein, pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Parce que je me refuse d'être le gars qui vend des bretelles et qui te dit dans 5 ans, encore 5 ans, et j'écris un livre. Voilà, je crois qu'il faut faire les choses. Mais c'est pas du tout pressé par l'idée de la mort ou machin. Ça, c'est une espèce de littérature à la mort moelle neuve. Tu vois, pas. C'est parce que les choses doivent être faites. Et on ne peut pas vivre tout le temps en renonçant à ses envies, n'est-ce pas? On devient fou, on devient malheureux et on emmerde son entourage. Si un homme a envie de quelque chose, si un homme a envie de faire le tour du monde, il faut qu'il quitte tout s'il en a vraiment envie, et qu'il quitte tout, et qu'il s'engage comme marin sur un cargo, et qu'il fasse le tour du monde. Et les gens meurent de ne pas faire le tour du monde quand ils en ont envie, sous prétexte qu'ils sont coincés par de fausses obligations. Et s'il reste, eh bien c'est qu'il n'en a pas vraiment envie. Quand on sait piloter un avion, on est un tout petit peu plus... On n'est pas plus fort, on reste aussi fragile, on a aussi peur, on a peut-être plus peur, parce que l'imagination, la peur est un phénomène imaginatif, l'imagination est nourrie par des choses extrêmement précises, extrêmement techniques. Quand on lit Rimbaud, on est plus riche que la veille, mais on sait aussi qu'on écrit beaucoup moins bien qu'on ne croyait écrire la veille. Hein, même chose pour la musique, pour tout. La fuite, c'est la pension. Ça, c'est la fuite. pour moi. Je suis pas du tout contre le fait qu'on pensionne les gens qui ont travaillé convenablement toute leur vie. Pas du tout. Mais la fuite, c'est la résignation. Voilà la vraie fuite. C'est dire, ah, j'ai pas eu de chance. Mais qui a eu de la chance? Je connais pas bien la chance. Je sais pas bien ce que c'est que la chance, vraiment. La chance, elle se viole tout le temps. Elle va se chercher. On se bat. La chance, c'est qu'un jour, il y a un examen et voilà qu'on est prêt. Mais c'est parce qu'on est prêt qu'on réussit cet examen. Ou qu'on le rate. Si on n'est pas prêt, c'est tout. Ça, c'est passionnant, c'est vivre. C'est excitant.
Alors, 100% heureux ou heureux à 50%?
Mais 100% heureux, c'est impossible, enfin, voyons. On n'est pas fait pour ça. Mais heureux, ouais. Oh, oui, heureux. Heureux. Complètement fou et heureux.
Thank you.